Gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, je veux. Merci, Seigneur. Oui, je veux aimer Jésus.
Pour nos âmes et une inspiration pour nos vies. Merci, Seigneur. Nous comptons sur l'assistance de l'Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité et pour glorifier Jésus seul au milieu de nous. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur est là encore. Il nous a bénis pendant toute cette journée, n'est-ce pas?
Amen.
Sa présence a été sensible dès la première réunion et nous voulons lui dire merci. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il veut nous faire du bien, c'est parce qu'il veut nous attirer toujours plus près de lui. Gardons toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Si nous regardons aux hommes, nous serons déçus. Ne regarde pas l'homme, ne te confie pas dans l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais bienheureux est l'homme qui se confie dans l'Éternel. Lui ne te décevra jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Pour ce message, avant de nous quitter, j'aimerais qu'on voit un sujet d'actualité qui correspond au temps dans lequel nous vivons maintenant. Nul n'ignore que nous sommes réellement à la fin des temps. Amen. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Tout se met en place pour la manifestation de l'Antichrist, des jugements qui viennent. Il y a tant de signes qui sont visibles maintenant, qui nous rappellent qu'il revient bientôt, mais que aussi des temps difficiles sont devant nous, et spécialement dans l'Église, pas seulement dans le monde. Nous parlons souvent des signes dans le monde. Il y en a, il y en aura. Et nous faisons peut-être, et nous faisons attention à cela. Mais il y a des signes dans l'Église. Et si nous ne prenons pas garde à ce qui se passe dans l'Église et que l'ennemi essaye d'une manière ou d'une autre d'infiltrer certaines choses mauvaises, nous risquons de vivre des moments terribles pour notre foi. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous avertit. Il est bien dit cela, nous allons méditer un verset dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. 1, 4, verset 1er, nous allons nous arrêter à ce verset, examiner, j'allais dire à la loupe, certains mots dans le texte grec qui sont très importants pour notre compréhension spirituelle. 1 Timothée 4, bien souvent nous lisons des mots, mais sans en saisir pleinement le sens. Et il est bon, quand on fait une étude un peu dans le texte original, il y a une richesse, il y a des nuances que nous ne découvrons pas dans le texte comme cela. Et il y a une portée très importante, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et nous allons voir que ce que Paul disait, inspiré par le Saint-Esprit, c'était vraiment des paroles extrêmement sérieuses, auxquelles nous devons tous prendre garde. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà, nous allons nous arrêter là. Quelques-uns abandonneront la foi. Donc, cela concerne les chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Un païen ne peut pas abandonner la foi parce qu'il ne l'a pas. Il n'y a que le chrétien qui peut abandonner la foi parce qu'il la possède. Et cette foi-là, l'épître de Jude nous dit que c'est une très sainte foi. Ce qui veut dire que cette foi dans la parole, dans les vérités fondamentales des Écritures, est très, très importante. Parce qu'à la fin des temps, il y aura des doctrines de démons qui s'infiltreront dans les églises au travers, bien souvent, de la littérature. La littérature, il y a de mauvaises littératures que beaucoup lisent et qui ensuite pénètrent dans les églises comme cela, sans contrôle, sans rien du tout. Mais l'Esprit de Dieu qui sait tout cela nous avertit. Et qu'est-ce qu'il dit, le Saint-Esprit ? Alors, le titre de mon message, c'est justement cela, « Les avertissements de l'Esprit aux chrétiens des derniers temps ». Il est bien dit, mais l'Esprit dit expressément. C'est bien là, donc, un avertissement. Il y a donc des avertissements que le Saint-Esprit veut nous adresser, aux uns comme aux autres. Et on ferait bien attention d'y prendre garde, n'est-ce pas vrai? Parce que ce que le Saint-Esprit, qui est Dieu, Saint-Esprit n'est pas une influence, une puissance, c'est une personne. Puissante, c'est vrai, mais c'est une personne. Ce n'est pas un courant, ce n'est pas une force cosmique. C'est une personne qui parle, qui a pensé, des sentiments, une volonté. C'est la troisième personne de la Trinité divine. Amen. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est la saine doctrine. L'Esprit, donc, qui est Dieu, et s'il est Dieu, il ne se trompe pas. Amen. Il sonde les cœurs et les reins. Il dévoile ce qui est caché. Et quand on entend aujourd'hui beaucoup de gens et beaucoup de pasteurs qui ont des prophéties, ça se passe dans le monde entier, vous les avez vous-même entendus, que dans les derniers temps, il y aurait un grand réveil mondial. Je pense que vous l'avez tous entendu cela. Mais la Bible ne promet jamais un grand réveil mondial à la fin des temps. La Bible révèle une grande apostasie de la foi. C'est clair et net. S'il n'y a pas un grand réveil mondial, cela ne veut pas dire que Dieu n'agira pas. Comme Dieu a toujours agi, Dieu sauvera, Dieu guérira, Dieu délivrera. Des multitudes viendront à la foi. Mais entre ça et dire que des nations entières se convertiront, comme on l'entend dire dans certaines prophéties, et que ce sera quelque chose d'extraordinaire, on se demande où ils ont trouver de telles choses. Alors voyez-vous, le Saint-Esprit ne dit pas du tout ce que ses prophètes disent, parce qu'il y a des prophètes, des nouveaux prophètes qui disent cela maintenant. Et alors, beaucoup de gens sont très impressionnés par ces nouveaux prophètes. Il y a des livres là-dessus, et on parle surtout d'un groupe, les prophètes de Kansas City, et dont la littérature commence à se répandre dans le monde entier. Il y en a trois, en tout cas. Paul Kane, Mike Bickle et Rick Joyner. Ces trois, je crois qu'il y a déjà des livres en français, en tout cas de un ou deux. Rick Joyner et Mike Bickle. La passion de Jésus l'un et l'autre sur la moisson. Vous avez intérêt à faire attention. Parce que si vous faites bien attention à ce qui est écrit, eh bien vous verrez que il y a des choses extrêmement graves qui sont en totale contradiction avec ce que l'Esprit de Dieu dit. Alors même s'il y a de grandes prophéties prévoyant un réveil mondial, on lisait, un de ces prophètes disait que dans les derniers temps, des malades dans les hôpitaux psychiatriques sortiraient de ces hôpitaux, ils seraient guéris instantanément, simplement lorsque des enfants imposeraient les mains au bâtiment. Regardez la folie. Ah mais c'est ici, mais on a lu ça. Regardez, c'est un genre comme ça. Alors tout ça, c'est là-dedans, et on entend et on lit de telles choses. Et des multitudes de chrétiens croient cela. Vous ne croyez pas que c'est de la séduction? N'est-ce pas une folie? La Bible ne nous a jamais promis de telles choses. Alors il nous faut faire attention. Et même certains de ces prophètes, pour vous dire combien c'est grave, deux de ceux-là, ils disent les chrétiens des derniers temps que nous sommes verront même les apôtres du Nouveau Testament venir nous rencontrer, faire la queue auprès de nous pour apprendre de nous. Tellement nous, les chrétiens de la dernière génération, on dépasse l'Église des premiers chrétiens et des apôtres. Et l'Église des apôtres ne sera plus la norme. C'est maintenant ces super apôtres des derniers temps qui apportent la norme pour l'Église. Mais c'est écrit dans leur livre. Je n'invente pas. En Allemagne, en Angleterre, je ne sais pas, ils ne sont pas encore venus ici, mais ça ne va pas tarder. Hein. Ça, tôt ou tard. Mais déjà, leurs livres sont là. Je vous dis cela, mes amis, parce que c'est extrêmement important et grave. Amen. Lorsque nous étions au Canada, il y a 2 ans, quand on est rentré dans une librairie chrétienne, j'ai été accosté par un vendeur là-bas. Et comme il a vu que dans notre magazine, nous condamnions certaines fausses doctrines, il n'était pas content. Et il a commencé à me reprendre. C'était un jeune homme. J'ai dit, mais tu lis ta Bible? Où est-ce que tu as vu ces prophéties dans la Bible? Mais tu ne te rends pas compte de ce qui est dit? Il était complètement séduit. Et vous savez, quand quelqu'un est séduit, vous pouvez faire quelque chose? Rien du tout. Regardez par exemple, un témoin de Jéhovah qui est séduit. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça rentre ici et puis ça, c'est tout. Eh bien, ça fait la même chose, même à des chrétiens. Rien du tout. Et vous savez ce qu'il pense? Il dit, tu n'as rien compris. Non seulement il ne veut pas admettre qu'il s'est trompé, mais il pense que c'est nous qui nous trompons. Que c'est lui qui a la révélation. Vous voyez, tout est faussé. Et il n'a pas de texte biblique pour cela. Il a simplement cette prophétie, ou ces enseignements de ces super prophètes. Parce qu'ils ont annoncé quelque chose, ça se passera. Sans contrôler avec la parole de Dieu. Alors mes amis, il faut bien, parce qu'ils font aussi des miracles ces gens-là. Ils ont des manifestations un peu surnaturelles. Ne vous arrêtez jamais aux manifestations surnaturelles, mes amis. Quand vous voyez quelqu'un faire un miracle ou voir des choses un peu extraordinaires, par exemple les gens qui tombent, qui se roulent par terre, ou je ne sais pas quoi, ça ne prouve absolument pas la puissance de Dieu. Écoutez-moi bien. Qui est le modèle? C'est bien Jésus. Est-ce que les gens se roulaient par terre quand ils priaient? C'était les possédés. Mais lui, quand il priait pour les malades, est-ce que les gens tombaient? Et pourtant, toute la plénitude de l'Esprit de Dieu habite en lui. S'il y a des gens, si c'était vraiment un signe de puissance, ils devraient tous tomber. Bon, prenons après les apôtres. Paul, Jacques, Jean, ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Bien sûr, dans une autre mesure, parce que Dieu, on ne peut pas les comparer avec Dieu, mais ils étaient remplis de l'Esprit. Vous les voyez? Est-ce qu'on voit dans les Épîtres, dans les Actes, quand ils prient pour les gens, tous les uns ou les autres tombaient par terre? Où est-ce que vous voyez ça? C'est les inconvertis, oui, mais pas les chrétiens. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que ces gens-là sont remplis de puissance. Et quand vous priez pour quelqu'un, que les gens ne tombent pas, tu n'as pas la puissance. Regardez où on va. Mais ils se moquent de vous, ils vous méprisent. Il n'y a rien qui se passe, tout le monde ne tombe pas ici par terre. Ça ne rugit pas par terre, ça ne remue pas.
On ne saute pas au plafond ici. Il n'y a rien qui se passe. Les gens confondent la soif du surnaturel avec la soif de Dieu. Il y a une grande différence, mes amis, entre la soif de Dieu et la soif du surnaturel. Il faudra bien faire attention. Alors voilà où nous en sommes. Alors ces gens qui se moquent de vous, parce que vous faites ce que la Bible dit, ils ont dépassé la Bible. Ils ont dépassé les apôtres. Ils les ont dépassés. Il a dit, vous avez regardé jusqu'à présent l'église des apôtres, les premiers apôtres, comme une norme. Mais maintenant, ça, c'est fini. Vous vous rendez compte? Le modèle qui est dans la parole, on n'en veut plus. Ils ont quelque chose de plus. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit expressément, mes amis, faisons bien attention. Si vous courez pour le miracle, après le miracle, pour le miracle, vous êtes candidat à la séduction à brève échéance. Si vous courez après le miracle pour lui-même, parce qu'il y a quelque chose qui bouge quelque part. En plus, si c'était des manifestations bibliques, d'accord, nous croyons au miracle. Nous en voyons dans notre ministère. Nous voyons les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les paralytiques qui marchent. Nous en voyons. C'est biblique. Les expériences bibliques, tout à fait d'accord. Mais les expériences qui ne sont pas bibliques, nous devons les rejeter catégoriquement. Amen. Alors attention, mes amis. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui bougent et qui se passent dans un ministère que ça vient forcément de Dieu. Comment savoir? C'est le contenu de son message. C'est sa doctrine. Et quand vous voyez qu'il y a de graves hérésies comme cela, et d'autres encore, eh bien, vous n'êtes pas étonné que ces choses ne viennent pas de Dieu. Quand ils mettent en doute, par de telles prophéties, l'autorité finale des Écritures, parce qu'ils en ajoutent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doutent de l'autorité, mais pas seulement de l'autorité de la parole de Dieu, mais de l'autorité finale. Attention, c'est très subtil. Alors vous leur dites, mais vous ne croyez pas en la parole de Dieu? Mais bien sûr, on y croit. Mais la parole de Dieu n'est plus l'autorité finale. Dans l'Apocalypse, c'est ce qu'il est dit. Nous ne devons plus ni ajouter, ni retrancher quoi que ce soit. Amen. Et Jude, qu'est-ce qu'il dit? Que nous devons combattre pour la foi transmise au saints une fois pour toutes. Dans le texte grec, une fois pour toutes, un sens précis, c'est le mot apax, qui veut dire, qui parle de quelque chose de complet, de définitif et d'achevé, auquel il n'y a plus rien à rajouter. C'est comme si l'apôtre Jude disait, la foi que vous avez reçue, il n'y a plus rien à rajouter. C'est complet. Dieu ne va pas utiliser de nouveaux prophètes pour ajouter quelque chose, c'est terminé. Ceux qui ajoutent quelque chose maintenant ne viennent plus du Saint-Esprit. Une fois pour toutes, apax, ça veut dire que la foi transmise à vous, à moi et à tous les chrétiens de toutes les générations jusqu'au retour du Seigneur est là. Il n'y aura plus rien à rajouter. Amen. Autrement, mes amis, s'il fallait rajouter à chaque génération quelque chose, mais où est la norme? Où est la barrière? Il n'y a plus de barrière. Chacun peut venir et dire, moi j'ai une nouvelle révélation. Alors pourquoi refuser une révélation et accepter l'autre révélation? Vous ne pouvez pas faire du favoritisme. Si vous acceptez l'un, vous êtes obligé d'accepter l'autre après, avec ce raisonnement. Mais quand la Bible dit que la foi a été transmise au saints une fois pour toutes, ça veut dire d'une manière définitive. Elle est là, consignée. Nous n'avons plus à ajouter quoi que ce soit. Et celui qui ajoute quelque chose, ajoute les jugements de Dieu sur lui-même. Amen. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention, mes amis. Nous ne pouvons pas jouer avec ces choses. Il y a des dangers. Et nous devons rester dans le cadre de la parole de Dieu. Et là, nous serons bien protégés. Amen. Nous devons être des chrétiens de béret et contrôler tout ce que nous entendons d'après les Écritures. Mais malheureusement,
Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas assez leur Bible. Ils ne connaissent pas assez leur Bible. Ce qui fait que lorsqu'ils entendent quelque chose, des pasteurs ou autres, de nouveau, ils pensent que c'est dans la Bible. Et ils ne contrôlent pas. Voyez-vous, l'ignorance, c'est terrible. Et c'est comme cela que l'ennemi pénètre. D'où l'importance, mes frères et sœurs, de connaître la Bible et les vérités fondamentales. Vous devez être imprégné de la parole de Dieu. Sinon, vous n'allez rien discerner. Vous allez penser que vous faites... Et beaucoup font confiance aveuglément à un pasteur. Oh, il est gentil, lui, il est gentil. Tout ça. Bon, et ça ne veut pas dire qu'on met le doute sur sa gentillesse. Il peut être gentil, mais séduit aussi. Ce n'est pas un homme que vous devez suivre, c'est le Seigneur. Amen. Et si vous dites non, c'est comme non, vous faites bien attention. Si vous suivez aveuglément un homme ou un serviteur de Dieu, un jour vous tomberez dans un piège. Même l'enseignement de Paul était contrôlé par les chrétiens de Bérée. Amen. C'était l'enseignement de Paul qu'il contrôlait. Et je pense que s'il s'est écrit comme ça dans Actes 17, 11, c'est certainement aussi parce que Paul lui-même l'avait suggéré en disant « Vérifiez ce que je dis. Vérifiez, n'ayez pas peur. Vérifiez dans les Écritures si ce que je vous dis est conforme. » Tandis qu'aujourd'hui, oh là là, quel est le pasteur qui dit « Vérifiez ce que je dis » ou « Vérifiez ce que je fais dans les Écritures ». Au contraire, dans ces nouveaux milieux maintenant, on leur dit, c'est comme ça, moi, c'est tout. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et attention, il y a des menaces. Si tu n'obéis pas à ce que le Saint-Esprit m'a montré, le jugement de Dieu vient sur toi et sur ta famille. Et il y a de telles choses qui se passent aujourd'hui, mes amis. Des menaces à l'encontre de ceux qui refusent ces choses, ces nouvelles révélations. Combien nous devons veiller. Amen. Si tu marches à la lumière de la parole de Dieu, tu ne crains rien, mon ami. Hallelujah. Et malgré toutes leurs menaces, le Seigneur te gardera. S'il y a quelqu'un qui est en danger, c'est lui. C'est celui qui prophétise de fausses choses. Qui est en danger? Pas toi. Hallelujah. Amen. Soyons comme les chrétiens de Bérée. Ils examinaient toutes choses. Et vous savez, dans le texte grec, le mot « examiner », c'est très important. C'est le mot anakrino. Ça veut dire, ils examinaient comme à la loupe. Ou ils passaient au tamis comme cela. Tout ce qu'ils entendaient, le tamis de la parole de Dieu. Et alors, s'il y avait quelque chose qui n'était pas conforme à la parole, ils mettaient ça de côté. Et le verbe veut dire aussi, faire des recherches sérieuses sur l'origine de ces paroles qu'on entend, si elles sont conformes à la parole. Voyez, des recherches sérieuses. Beaucoup de chrétiens ont perdu ce sérieux-là maintenant. On accepte n'importe quoi. Et on ne vérifie pas. Si tu ne vérifies pas, tu es candidat à la séduction, mon ami, qui que tu sois. Qui que nous soyons, nous sommes des candidats à la séduction. Soyons des chrétiens de Bérée. Dieu les a loués. Amen. Le Saint-Esprit les a loués. Et d'ailleurs, un pasteur qui aime vraiment la parole de Dieu ne sera jamais offusqué de ce que vous vérifiez son enseignement. Jamais. Moi, je le dis souvent. Vérifiez, contrôlez ce que je dis. Je n'ai rien à cacher. C'est la parole de Dieu. Et au contraire, si vous venez me voir en disant, frère, je voudrais voir ça dans la parole et tout. Qu'est-ce que vous avez rendu? Je n'ai pas bien compris. Vous croyez que je vais me relever? Tu as osé douter de mes paroles et de mon autorité spirituelle? Va vite te cacher. Va vite. C'est une réaction charnelle que tu viens d'avoir. Crois seulement. Non. Ça, c'est l'orgueil qui parle, n'est-ce pas vrai? Le vrai serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se réjouit. Il dit au moins, voilà un frère, une sœur, un chrétien, une chrétienne, qui n'accepte pas n'importe quoi et qui contrôle. Moi, ce serait ma plus grande joie de voir de tels chrétiens venir me voir. Je dis, voilà, au moins un frère, une sœur, qui n'accepte pas n'importe quoi, qui contrôle tout. Et si on prêche la vérité, on n'a pas peur d'être contrôlé.
C'est celui qui prêche autre chose qui a peur d'être contrôlé. Mais si vous prêchez la vérité, vous n'avez pas peur. Et si j'ai fait une erreur, ça peut arriver. J'aime bien qu'on me corrige aussi. Mais ce n'est pas intentionnel. Ce n'est pas quelque chose que j'essaye d'apporter aux chrétiens pour les séduire. Et tout de suite, si je vois que, oh là, donc, oui, ou je ne me suis pas bien expliqué, ou j'ai mal dit la chose, tout de suite, il faut que je me corrige. Il n'y a pas d'autre solution. Et ainsi, je reste sur le bon chemin. Et le chrétien aussi reste sur le bon chemin. Alléluia. Et ainsi, on aide les chrétiens. Amen. Le pasteur doit louer le chrétien qui examine toutes choses. Il ne faut pas lui dire, tu manques de foi, tu es un incrédule. Non, jamais. Tu fais bien, mon frère, ma sœur, examine par les Écritures. Tout ce que tu entends, c'est très important. Amen. Alléluia. Alors, brièvement, les avertissements du Saint-Esprit. L'Esprit dit expressément. Le mot expressément, on va étudier juste brièvement le mot expressément, veut dire parler d'une manière claire et infaillible. Cela veut dire que ce que le Saint-Esprit a dit est clair et arrivera certainement. Amen. Nous pouvons mettre notre confiance dans cette parole inspirée par l'Esprit de vérité. Amen. Vous n'avez pas à douter continuellement. Ah, est-ce qu'il dit ? Ce qu'il dit, c'est peut-être vrai. Je me trompe peut-être. Regarde ça, c'est puissant, ça bouge, ça crie dans tous les coins, il se passe des choses. C'est peut-être moi. Moi, il n'y a rien du tout. Je me trompe peut-être. La parole, est-ce que, je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, mon ami. Tu dois être certain que ce que la parole annonce est inspiré par le Saint-Esprit et s'accomplira d'une manière infaillible. Amen. L'Esprit dit expressément, ça veut dire d'une manière certaine, infaillible, s'accomplira. Alléluia. Ça s'accomplira, tôt ou tard. Faisons confiance à cette parole. Même si, en nous attachant à cette parole, on se moque de nous, parce que c'est bien ce qui se passe maintenant. Avec ces nouveaux prophètes, quand vous lisez leurs livres, je vous assure, ils sont pas... Entre eux, ils sont pleins d'amour. Mais pour ceux avec lesquels, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, l'amour disparaît tout de suite. Hein. C'est même les menaces qui viennent. Alors c'est là que vous voyez qu'il y a un esprit autoritaire qui est là. On veut vous dominer, vous contrôler, mes amis. Est-ce que le Saint-Esprit fait cela ? Le Saint-Esprit nous laisse toujours libres, n'est-ce pas vrai ? Il nous avertit, il nous parle, il cherche à nous attirer, mais jamais il s'impose à nous et il nous contraint de faire quelque chose, n'est-ce pas vrai ? Tandis que là, on vous contraint, on utilise la crainte, la menace, les jugements pour vous faire céder. Et si c'était vrai ? Attention, si tu résistes à ça, tu résistes à Dieu. Vous vous rendez compte ? Regardez-moi ça. Ils ne se prennent pas pour rien du tout. Si tu résistes à eux, tu résistes à Dieu. C'est en résistant à la parole qu'on résiste à Dieu, mais pas en résistant à un homme. Amen. C'est en résistant à la parole qu'on résiste à Dieu. Mais le plus grand soit-il, vous devez examiner, même si c'est un apôtre. Vous devez tout examiner et ne pas être impressionné par ce que vous voyez. Si dans son enseignement, il y a des choses qui sont de travers où il y a de graves hérésies. Amen. Voilà, première pensée, le Saint-Esprit donc nous avertit que ces choses arriveront. Ça va arriver. Même la prière, même le jeûne. Alléluia. Alors, allons un peu plus loin. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Et le mot « foi » ici ne concerne pas un sujet particulier, hein, comme la guérison, le salut ou autre, mais la foi en général, la foi chrétienne en la Bible, autrement dit, les vérités fondamentales des Écritures et la saine doctrine. Et c'est cela aujourd'hui, mes amis, dans certains mouvements charismatiques, par exemple, dans beaucoup d'endroits, en Amérique par exemple, je lis beaucoup, nous lisons beaucoup, mais il y a des associations de serviteurs de Dieu, d'œuvres chrétiennes, Et vous avez, savez la décision qu'ils ont prise ? De ne jamais discuter de doctrine. Parce que pour eux, la doctrine divise. Et alors, il faut s'allier et sans discuter de doctrine. On ne supporte plus la doctrine. Dès que quelqu'un parle de doctrine, on n'en veut plus. On ne supporte plus cela. Ils abandonneront la foi, la saine doctrine. Oh, on l'a trop entendu, on la sait maintenant, on l'a trop entendu. Maintenant, il nous faut autre chose. Regardez le danger. Si quelqu'un se lasse d'entendre la parole de Dieu, il est en grand danger, mon ami. Il est en grand danger. Nous ne devons jamais nous lasser d'entendre les vérités fondamentales des Écritures. Amen. La repentance, la conversion, la régénération, la rédemption en Jésus-Christ, la justification, la résurrection, l'autorité finale des Écritures, la divinité de Jésus-Christ, son retour prochain, le salut par grâce et non par les œuvres, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur, le jugement éternel, l'enfer pour ceux qui ne croient pas aux paroles, à la parole de Dieu. Tout cela, ce sont les vérités fondamentales des Écritures. Amen. Ils abandonneront la foi. Et ici, la foi, ce n'est pas justement quelque chose, comme on entend beaucoup parler, la foi pour manifester la puissance de Dieu, ça n'a rien à voir. Encore, beaucoup vous disent, ils parlent de ces choses-là. Hein, vous voyez bien, dans les derniers temps, il y en a qui vont abandonner la foi, donc leur foi ne sera plus une puissance pour faire des miracles. Regardez, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la pensée positive qui parle comme ça. C'est dans le Nouvel Âge qu'on parle comme ça. C'est la notion de la foi dans le Nouvel Âge, dans la pensée positive. Quand on parle de foi, on parle de force, de la pensée. C'est le fameux livre de Norman Vincent Peale, l'Américain. « Votre pensée peut tout ». C'est un livre qui a été traduit il y a des années déjà, qui doit exister dans certaines librairies. « Votre pensée peut tout ». Donc la foi est une force, une énergie qui vous permet, en pensant fortement à ce que vous désirez, au bout d'un certain temps, vous pouvez l'obtenir. Ce n'est plus la foi dans une personne, c'est la foi dans sa propre foi. Ça, c'est une hérésie. Et il y a beaucoup de livres charismatiques qui enseignent cela. Nous devons faire attention, mes amis. Ils abandonneront la foi, les vérités fondamentales. D'où l'importance de nous nourrir. Vous savez, quand on se nourrit des vérités fondamentales, que Dieu m'aime, que Jésus est mort pour moi, ça, c'est des vérités qui révèlent que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous, qu'il nous aime vraiment. Amen. Que sa présence est en nous, que nous ne sommes pas seuls, qu'il est le bon berger qui nous conduit. Enfin, toutes ces vérités de la justification à ses yeux, parce que nous avons cru en son sacrifice, nous sommes comme si nous n'avions jamais péché. Quel pardon merveilleux ! Alléluia ! N'est-ce pas extraordinaire ? Ce sont ces vérités que nous devons constamment entendre pour qu'elles soient renouvelées en nous, car ce sont ces vérités qui libèrent. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia ! Alors allons plus loin. Il est dit, quelques-uns abandonneront la foi. Soulignons le verbe abandonner maintenant. Il y a un point très important ici. Que veut dire le mot abandonner ? Non, on peut penser, les quelques-uns abandonneront la foi. Comment ça se fait ? C'est bon, on peut se poser la question. Comment ils abandonnent ? Comment ça se passe ? Eh bien, le texte grec nous montre comment ça se passe. C'est intéressant, ça. Grec, s'éloigner, ça veut dire s'éloigner de. Ce mot aussi veut dire apostasie. Quand on parle d'apostasie, eh bien, à la place d'abandonner, on peut dire apostasieront concernant la foi. Voilà. Quand on dit, oh, mais il n'y a pas d'apostasie dans les derniers temps de la foi. C'est le mot. Abandonner veut dire apostasier, là. Bon. Et aussi, ça veut dire donc s'éloigner de. Cela ne veut pas dire forcément que la personne prend la décision d'abandonner la foi. Mais, voilà la pensée dans le grec. Mais ceci décrit plutôt une personne qui passe d'une position à une autre si lentement qu'elle ne se rend même pas compte de ce changement. Voyez-vous ? C'est passé d'une position à une autre tellement lentement qu'on ne se rend pas compte qu'on a changé d'avis, changé d'idée, changé de conviction. Avant, on croyait que la doctrine était importante, et maintenant, d'un seul coup, ça sort de notre bouche. Oh, ça divise. C'est pas si important que ça. Voyez-vous, ça y est. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait très lentement. Comprenez, le diable est rusé. Il ne nous bouscule pas. Les choses se font très lentement. Très lentement. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, voilà, on ne l'a pas fait volontairement, mais petit à petit, la chose s'est faite. Cependant, un changement a lieu très, très lentement. Sa position change, sa façon de penser change lentement. Un petit pas après l'autre, il s'éloigne lentement de la foi. Amen. Voyez-vous ? Petit à petit, petit à petit. Donc, il nous faut bien faire attention. Si vous faites un compromis avec une vérité de la parole en disant « Oh oui, finalement, c'est peut-être pas aussi grave. C'est pas... C'est, » voilà. Et c'est comme ça que, petit à petit, vous vous éloignez. À l'égard de la vérité, il faut être intransigeant. Amen. Si c'est écrit, d'accord. Si ce n'est pas écrit, je n'en veux pas. Un point, c'est tout. Dieu a fait les choses claires et nettes pour que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Amen. Voilà, abandonner, c'est cela. Donc, ce n'est pas un abandon volontaire. Vous voyez, comme dit, là, j'abandonne la foi. Mais tous ceux qui sont dans les sectes ou dans des fausses doctrines, même dans l'Église, vous croyez qu'ils l'ont fait ouvertement, en tout cas dans l'Église ? Jamais. Jamais. Ça s'est toujours fait lentement. Lentement. Le diable a mis le doute sur telle doctrine, telle doctrine, telle doctrine, telle doctrine. Et petit à petit, ça a pénétré en eux. Si bien qu'à un moment donné, ils se sont éloignés de la vraie foi et ils ne s'en rendent même pas compte. Quelle tragédie, n'est-ce pas vrai ? C'est pourquoi, dès que quelque chose vous sonne à l'oreille, « Oh, mais ça, c'est... Oula, ça, c'est pas selon la parole. Je n'en veux pas. » Vous contrôlez et tout de suite, vous dites « Non, je n'en veux pas. » Il faut une réaction immédiate et définitive. Et pourquoi cela arrive-t-il ? Ils sont fatigués d'entendre la parole de Dieu. Maintenant, pour eux, cette parole est ennuyeuse. Ils l'ont entendue si souvent. Ils sont prêts à changer. Ils veulent des expériences. Ils veulent des expériences. L'expérience est bonne, mais elle doit être biblique. Amen. Si elle n'est pas biblique, nous devons la rejeter. Alors après, une autre pensée, ils abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Écoutez bien maintenant, pour s'attacher, c'est aussi important. Qu'est-ce que ça veut dire attacher ? Pour s'attacher, c'est comment ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre ? S'attacher, c'est quoi ? Voilà. Alors là, dans le texte grec, il y a aussi quelque chose de très, très, très important. Ce mot est important en grec. Ce mot a l'idée de tourner ses pensées dans une autre direction. C'est considérer d'autres options. Et s'il avait raison quand vous entendez quelque chose ? Et s'il avait raison ? Et si c'est vrai ce qu'il disait ? Voyez-vous, c'est détourner ses pensées de la parole. Et dire, ah, mais peut-être qu'il a raison. Mais il n'a peut-être pas tort. Avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, c'est peut-être vrai. C'est ça. Ça se passe comme ça. Ceci décrit une personne qui ouvre son esprit à de nouvelles pensées et à de nouvelles possibilités, nouvelles expériences, nouvelles révélations. Voilà comment ça se passe. On s'éloigne et on tourne ses pensées dans une autre direction que celle de la parole. C'est ce que le diable a dit à Adam et Ève dès le début. Dieu a-t-il réellement dit ? Voyez-vous la subtilité du serpent ? On met le doute sur cette parole. On l'a trop entendue, elle est ennuyeuse, on la connaît. Peut-être qu'il a raison. Oh,
Il a l'air de savoir ce qu'il dit, celui-là. Viens l'écouter. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Il ne sait justement pas ce qu'il dit. Il est en train de dire des choses qu'il ne devrait jamais dire. S'attacher de nouvelles options, de nouvelles idées. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette maladie-là. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, ils tombent les pieds joints dedans. On a l'impression que tout ce qui est nouveau dans l'Église, à gauche ou à droite, ils sont les premiers à y aller. On ne sait pas comment ils le savent, mais ils sont toujours, ils le savent toujours. Ils sont toujours au courant des nouveautés. Ils sont friands de nouveautés. C'est ça, s'attacher. Toujours on veut de nouvelles choses. C'est là le danger. On cherche une autre option. On veut de nouvelles choses. Mes amis, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Le reste peut avoir une belle apparence. C'est comme ces ballons, vous savez, qui sont gonflés comme ça. Mais dès que vous touchez un petit peu, pof, ça éclate. Une belle apparence. Mais c'est plein de vide. C'est plein, ils sont pleins, mais pleins de vide. Voilà ce qu'ils sont. Ils ne sont pas pleins de l'esprit. Ils sont pleins de vide, pleins de courant d'air. On en est où? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ah, voilà un mot. Séducteur maintenant. J'ai toujours voulu savoir ce que le mot séducteur voulait dire. Et voilà ce que le mot séducteur, c'est un autre mot très important. C'est quelque chose qui vous semble juste. Tout vous semble juste. C'est comme si vous disiez, vous avez enfin trouvé une nouvelle révélation. Vous pouvez enfin faire confiance à cette personne. Le mot veut dire, en fait, prendre par la main et conduire si lentement quelqu'un hors du chemin que vous ne réalisez pas du tout que vous êtes sorti du chemin. Vous faites confiance à la personne qui vous conduit. La personne qui vous conduit est elle-même séduite et pense vous conduire dans le bon chemin. Alors, regardez où on est. C'est vraiment la séduction. La séduction, c'est savoir, c'est ne pas savoir qu'on ne sait pas. C'est ne pas savoir qu'on ne sait pas. Et c'est prendre par la main, voyez-vous encore une fois, tout se fait lentement. C'est conduire quelqu'un lentement hors du chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voyez-vous encore une fois, très lentement, très lentement. Et à un moment donné, vous vous trouvez sur un chemin, un autre chemin parallèle, mais qui est le chemin de l'erreur. Il ressemble à la vérité, ce chemin ressemble à la vérité, mais c'est l'erreur, c'est la contrefaçon. Ça ressemble, mais c'est l'erreur. C'est cela la séduction. C'est petit à petit, vous faites confiance à quelqu'un qui semble sûr, mais la personne elle-même est séduite, et vous êtes séduit avec elle. N'est-ce pas tragique? Vous ne pouvez pas donner la main à n'importe qui, mes amis. Attachez-vous au Seigneur et à sa parole. Et si Paul pouvait dire, suivez-moi, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Dans la mesure où il suit Christ, vous pouvez le suivre. Mais s'il ne suit plus Christ et sa parole, vous devez prendre le chemin de la parole. Amen. Et tout se fait lentement, lentement. Donc, et comment? Parce que vous faites un compromis avec la parole. Dès que vous faites un compromis, oh, c'est pas si, il faut pas être, parce qu'on nous accuse, on dit qu'on est des pharisiens. On dit qu'on est là, qu'on juge les autres, qu'on manque d'amour. Pouvez-vous supporter cette pression? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne supportent pas cette pression. Ah, et s'il avait raison? Vous voyez, c'est la pression. On vous prend pour quelqu'un qui juge les autres, qui condamne, qui manque d'amour, qui n'est pas pour l'unité. Tout ça, ce sont des arguments de l'ennemi pour vous faire céder à cette pression diabolique. mais vous devez tenir ferme. La parole de Dieu est la vérité. Attachez-vous à cette parole et vous resterez sur le droit chemin. Peu importe ce qu'on dira de vous, n'a-t-on pas rejeté le maître? N'a-t-on pas rejeté les apôtres, les prophètes, les vrais? Tous ceux qui ont été fidèles au Seigneur dans la parole de Dieu, dans la Bible, ont tous eu des ennemis et ont été haïs et rejetés. Ne pensons pas, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple accompli sera comme son maître. Ne vous découragez pas, même si on vous pointe du doigt, attachez-vous à cette parole, c'est elle qui vous sauvera. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais les paroles de ces faux prophètes, un jour, disparaîtra. Et le jugement de Dieu les atteindra tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu qui saura comment le faire. Mais ce ne sera jamais sans jugement. Parce que celui qui a séduit le peuple de Dieu, le serviteur ou le prophète qui séduit les chrétiens, aura un jugement beaucoup plus sévère sur sa vie. On ne joue pas avec ces choses. Très grave.
Bon, on va arriver au bout. Juste encore un dernier mot maintenant. Au verset 6, comment donc nous en sortir? Comment éviter ces séducteurs? Et au verset 6, il est dit, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. » En exposant ces choses. Et ici, l'expression « en exposant ces choses » veut dire ceci, parce qu'en exposant ces choses, là, on ne comprend pas très bien. Oui, c'est bien, expose ces choses, mais c'est plus précis encore. La pensée est celle-ci. Ça signifie mettre un fondement. Autrement dit, Paul voulait dire à Timothée, si tu bâtis la foi des frères sur le fondement de la parole de Dieu, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Voilà. En exposant ces choses, ça veut dire bâtis la foi des chrétiens sur le fondement de la parole de Dieu. Non pas sur les nouvelles révélations, non pas sur les miracles, non pas sur des grandes prophéties, mais sur la parole de Dieu. Toutes les autres choses disparaîtront, mais la parole de Dieu restera pour l'éternité. Amen. En exposant ces choses, Paul voulait dire à Timothée, ne te laisse pas emporter comme cela. Mets un fondement sous chaque chrétien. Et ce fondement, c'est la parole de Dieu. Si tu fais cela, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Et tu auras ta récompense un jour là-haut. Alléluia. Puissions-nous tous, serviteurs de Dieu, chrétiens, mettre ce fondement, avoir ce fondement soi-même. Et ensuite, mettre ce fondement de la parole seulement, sous la foi de ceux qui nous sont confiés ou que nous connaissons. Et c'est ainsi que nous tiendrons ferme. Quand la tempête viendra, la maison résistera parce qu'elle a été bien fondée. Alléluia ! Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur quelques instants. Brièvement.
Le Saint-Esprit veut avertir ici un serviteur de Dieu. Ça m'a été donné pendant que Samuel prêchait. Veut avertir un serviteur de Dieu ici, un pasteur.
Alléluia.
Qu'un loup ravisseur cherchera insidieusement à pénétrer dans ton église. Je t'appelle, te dit le Seigneur, à ouvrir tes yeux, serviteur de Dieu, et à examiner à la loupe ce qui se passe dans ton église. Je t'appelle à protéger tes brebis des mercenaires qui rôdent. Je t'ai établi comme sentinelle, pasteur, comme berger de mes brebis.
Alléluia.
Et je te dis, ce soir,
merci,
paie
Seigneur,
mes brebis.
Alléluia.
Veille sur eux, car c'est ce à quoi je t'ai appelé.
Amen.
Seigneur, nous voulons te prier pour ce serviteur de Dieu-là,
Seigneur,
que tu avertis aujourd'hui.
Amen.
Avertissement solennel,
ben,
Seigneur,
qu'il soit ferme.
À ne pas prendre à la légère, mais à prendre au sérieux et à veiller sur son église.
Alléluia.
Être un bon pasteur des brebis.
Amen.
À ne pas laisser les loups ravisseurs pénétrer dans son église.
Alléluia.
Merci Seigneur pour tes
Gloire
avertissements.
À ton nom, Seigneur.
Par ta parole.
Alléluia.
Et par ton esprit aussi.
Merci
Seigneur. Merci Seigneur.
Alléluia.
Le Seigneur connaît toutes choses. Et maintenant, le Seigneur veut
Merci,
consoler
Seigneur.
Particulièrement un pasteur ici
Alléluia.
Qui passe par l'épreuve. Voici, te dit le Seigneur, tu as décidé au fond de ton cœur de m'être fidèle et cela jusqu'au bout de ta vie. Tu as dit, Je marcherai humblement devant toi, Seigneur, jusqu'au terme de mes années. Alléluia. J'ai entendu cela, dit le Seigneur. Je connais aussi les circonstances douloureuses par lesquelles tu passes actuellement. Mais souviens-toi que je t'ai appelé par ton nom, que tu es à moi. Et que si tu traverses les eaux, merci, je serai avec toi. Et que les fleuves ne te submergeront point. Souviens-toi que si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Que la flamme ne te détruira pas. Car tu as du prix à mes yeux.
Amen.
Serviteur de Dieu, ne crains point. Ne crains rien du tout. Merci, je suis avec toi. Voici tes souffrances présentes deviendront même pour toi un sujet de reconnaissance plus tard. Quand tu reconnaîtras que mes plans sont parfaits et que je ne fais pas d'erreur. Mes bontés pour toi ne sont point épuisées.
Amen.
Ma fidélité pour toi est grande. Attends en silence mon secours et repasse toutes ces choses dans ton cœur, car elles seront ta force. Elles te soutiendront jusqu'au jour où, près de moi, tu jouiras d'une consolation éternelle.
Amen, amen.
Alléluia.
Alléluia.
Merci Seigneur de soutenir
Seigneur.
Ce serviteur,
amen.
De le bénir.
Oh oui, Seigneur.
Alléluia.
Alléluia.
Et maintenant, une parole prophétique pour le peuple Seigneur. De Dieu, en Alléluia. Tout entier, pour vous, qui représentez le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, Alléluia. Alors que tu vis à la fin des temps et que tu assistes à une décadence de plus en plus grande de la société et des valeurs morales, moi, le Seigneur, je fais mon œuvre. Je prépare mon peuple, je prépare mon église, je prépare mes enfants à se mettre toujours plus à mon service et à se rendre de plus en plus disponible pour me servir et à veiller particulièrement chacun sur ses voies.
Merci Seigneur.
Levons-nous dans la présence du
Amen.
Seigneur.
Amen. Hallelujah.
Et prenons toutes ces serrons, toutes ces paroles sur notre cœur.
Amen.
Tous ces avertissements de la part de la parole de Dieu.
Amen.